Voici la question que j'ai qui a été préparée pour ce groupe. Comment favoriser l'unité à travers les multiples projets qui naissent dans la région ?
Je vous salue pour ce nouveau dialogue qui aura lieu de cœur à cœur. Du moins, c'est comme cela que je souhaite que la relation ait lieu. Vous me proposez donc de parler à propos de votre travail s'inscrivant dans l'aura des autres personnes qui, elles aussi, travaillent, plus précisément dans la région. Mais il faut aussi imaginer le travail comme devant être national, voire même planétaire. Quelle unification essayez de voir ou essayez de décrire dans tout cela? Je ne vais pas parler d'unification, même s'il semble que des disciples ou des gens ayant une certaine intuition ou inspiration semblent devoir se rassembler pour travailler tous ensemble au même projet ou pour travailler tous ensemble pour servir apparemment la même cause. Eh bien, il est de très mauvaise inspiration que de vouloir absolument se rassembler. Ce qui ne veut pas dire que chacun doit nécessairement travailler isolé dans son camp. Absolument pas. Simplement, les méthodes de travail ou simplement les méthodes de distribution, de rayonnement, les méthodes de sensibilisation des foules ou bien des individus, ces méthodes-là sont personnelles. Soit à l'individu, soit au groupe. Et il ne faut pas qu'il y ait d'interférence entre les diverses méthodes. Pourquoi ? Non pas parce que cela est mauvais, non pas parce que cela dessert la lumière. Au contraire, si l'homme était suffisamment apte à reconnaître l'unité malgré la diversité des méthodes, il n'y aurait aucun problème à ce que les individus se réunissent ou détermine un plan commun, ou essaye de voir, même dans la mesure où il n'y a pas de collaboration avec les autres, essaye de voir les points de repère qui leur permettent de s'unir aux autres. Pourquoi est-ce que cela est impossible? Tout simplement parce que l'individu, même parfois inspiré, même ayant une très bonne volonté, même ayant quelque part en lui une aube spirituelle qui commence, cet individu est de toute manière pas suffisamment dépouillé, et ceci est assez général, pas suffisamment dépouillé de son propre ego pour pouvoir calmement accepter toutes les diversités de l'expression. À un moment donné ou à un autre, le groupe humain va vouloir faire la chose à sa manière et tirer ainsi, pour prendre une image, la couverture de son côté, alors que l'autre groupe voudra faire la même chose, mais d'une autre manière, et chacun pensant que c'est la meilleure façon de faire la chose, ou de dire la chose, ou de promouvoir la chose. Pour éviter donc ces dissensions, qui équivaudraient au bout de quelques temps à des ruptures d'église, ce qui ne fait que créer une mauvaise réputation à la lumière qui est ainsi proclamée. Pour éviter ce genre de petits problèmes, il vaut mieux que dès le début, chaque disciple connaisse le fondement d'unité qui alimente toutes les expressions, mais accepte aussi de vivre de manière indépendante sa propre expression, de même qu'il va respecter l'indépendance de l'expression des autres. Et ainsi, il n'y a plus de discours, plus de jugement, il n'y a plus de risque pour qu'une quelconque dissension ait lieu. Parce que tout simplement, chacun accepte que dans la marmite du voisin cuise une autre soupe, sans que pour autant elle ne soit pas une bonne nourriture. Il est donc capital, et ceci n'est pas simplement capital à cause de la raison que je viens de citer. Ceci est aussi capital à cause du fait que, l'air du Verseau venant, il s'agit pour chaque individu de découvrir de plus en plus d'individualité. Le Verseau est avant tout un rayonnement d'individualisme. Donc il est capital aussi à ce titre que l'individu découvre en lui-même ce que veut dire être individuel, Ce que veut dire que agir de manière indépendante, sans que cela pour autant sabre par là même l'idée d'union ou l'idée de rassemblement entre groupes ou entre disciples ou entre plans de travail. Cela ne sabote absolument pas l'idée d'union. Seulement, la nature humaine est faite de telle manière que cette union, qui est envisagée, qui est parfois désirée sur le plan de l'idéal, n'est absolument pas bien vécue une fois que le travail se trouve à exécuter sur un plan concret et pratique, où il peut y avoir des interférences du plan mental, des interférences de la personnalité. C'est pourquoi, tout en ayant une vision holistique de l'enseignement, du travail qui est à faire, il faut qu'en même temps chacun développe un grand sens d'individualité et assume cette individualité, ce qui le portera par là même à respecter l'individualité des autres et à reconnaître que la lumière se trouve en toute chose, derrière chaque mot, derrière chaque action, mais que chaque individu est aussi responsable de la façon dont il traduit cette lumière. Ce qui fait que chaque individu va par là même être plus sensible vis-à-vis de sa propre responsabilité. Responsabilité qui, si elle est négligée quelque peu, finit par dénaturer la lumière qui est perçue, ou le renseignement qui est donné, ou bien la vibration qui est donnée. Si chacun est à ce point conscient de la responsabilité qu'il a, soit de la qualité dont il est responsable, automatiquement il sait aussi très bien, je dirais non pas se méfier des autres, mais il sait aussi très bien juger l'autre pour ce qu'il vaut, de la manière dont il l'apporte. Et ainsi il comprend mieux quels sont les divers escaliers, les divers échelons de l'expression de la lumière. Et il arrive aussi mieux à orienter les gens vers des personnes qui correspondent typiquement aux gens que l'on a en face de soi. C'est-à-dire que, sachant ces différents degrés de l'expression de la lumière et ces différentes capacités, ces différentes qualités à exprimer cette lumière de la part des disciples, l'individu qui se trouve en face, par exemple, d'un malade ou d'un chercheur, en considérant le niveau de conscience que rayonne ce chercheur, le guide va pouvoir instantanément dire « Écoute, pour l'instant, il faut que tu ailles écouter telle personne. » Ou pour l'instant, il faut que tu ailles faire référence à tel groupe. Et dans quelque temps, tu reviendras vers moi. De cette façon-là, l'individu arrive tout de suite à distribuer les cartes pour que le chercheur qu'il a en face de lui trouve chaussure à son pied, soit trouve la mesure de l'escalier exact qui convient pour le type d'envergure de jambes qu'il est capable de déployer pour accomplir son premier pas ou son deuxième pas. Donc il n'est pas du tout question, selon la façon dont nous voyons les choses, selon la connaissance que nous avons de la nature humaine, il n'est pas question du tout que les groupes se rassemblent pour ne faire par exemple qu'un seul et même groupe. Pour l'heure, cela est hors de question. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les groupes se rassemblent et qu'il ne faut pas qu'ils vivent une fraternité et qu'ils vivent même une amitié, un échange de substances de travail. Je dis tout simplement que, considérant la nature humaine, l'homme qui s'éveille à la spiritualité est poussé à faire cette fusion avec d'autres personnes, d'autres groupes. Mais connaissant la nature humaine, nous savons très bien que cela est poussé par l'idéal spirituel. Mais que lorsque le travail concret et pratique va s'effectuer, il y aura de toute manière des dissensions. Or, ce qui prime, ce n'est pas de créer un grand rassemblement des groupes ou des idées ou des personnes qui ont un travail à exécuter. Ce qui compte, c'est que le travail soit exécuté. Et il faut donc absolument protéger la qualité et la perpétuité, la longévité de ce travail. Qui dit protéger la qualité, la longévité de ce travail, dit aussi éviter tout risque ou toute circonstance qui pourrait anéantir la capacité de travail. Donc il faut absolument évacuer les idées de rassemblement entre divers groupes dans le but d'un travail commun. C'est à éviter complètement. Et l'existence des églises ou l'existence de certains temples prouve très bien ce que je suis en train de dire. Au début, on est tous d'accord, au début, on veut tous faire le même travail, on reconnaît la lumière partout. Puis dès qu'il faut passer à l'aspect pratique et concret, les avis divergent. Si bien que des ruptures ont lieu et qu'au moment même de la fondation de certains temples, au moment même du premier cri, au moment même de la naissance, il y a déjà des scissions. Tout simplement parce qu'un voit la chose d'une façon et l'autre la voit d'une autre. Donc pour éviter cela, il faut que chacun soit conscient de l'individualisme auquel il a droit et de la responsabilité que cela lui apporte. Mais en même temps, il doit savoir qu'il fait partie, tout en étant individuel, qu'il fait partie d'un vaste tout et d'une vaste expression. Et que vis-à-vis de cette vaste expression, il n'est responsable que de l'expression qu'il apporte. Et il est déjà très difficile d'être responsable de sa seule expression. Ce qui ne veut pas dire que les groupes ne doivent pas se rassembler. Ils peuvent se rassembler, mais plutôt pour échanger, pour discuter de ce qu'ils ont fait, de ce que cela a apporté, ou de l'effet que ça a eu sur les personnes, sur un public, ou sur des gens qui étaient là pour un séminaire, pour échanger donc leurs expériences afin de s'enrichir les uns les autres. Car il n'y a qu'une chose qui puisse faire changer les gens d'avis quand ils veulent faire la chose d'une certaine manière, c'est de voir l'effet qu'a eu sur certaines personnes un groupe qui a fait la chose d'une autre manière. Et eux, l'ayant fait de la manière qu'ils avaient décrété, si cela a eu moins d'effet, s'apercevant que l'autre groupe a su créer plus d'effet, automatiquement, ils adhèrent à cette façon-là de faire la chose. Alors que si, dès le début, les deux groupes s'étaient réunis pour discuter de la meilleure façon de faire la chose, il y aurait eu de toute façon séparation. Et connaissant la nature humaine, en y mettant un peu d'animosité, un petit peu de regret, un petit peu d'humiliation, ou un petit peu de ceci, un petit peu de cela, des groupes qui au début n'avaient simplement que des idées différentes se trouvent au bout de quelque temps devenir de véritables ennemis. Parce que les petites graines de mauvaise humeur se plantent dans ce terrain-là et font croître des arbres de mauvais fruits. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est échanger les expériences. Et que riche des expériences des autres, chaque individu ensuite retourne dans sa région, continue son travail, avec peut-être de nouvelles méthodes qui auront été cette fois-ci acceptées parce que l'on a vu que la méthode portait des fruits. Encore une fois, je le dis, il faut cultiver l'individualisme, ce qui n'est pas du tout contraire à la notion d'union. Pour comprendre ce paradoxe, il faut par là même comprendre ce qu'est la vie et l'activité d'un maître, et la vie communautaire d'un ashram, par exemple. La vision idéaliste du disciple qui croit que tout va se faire dans le même élan, avec la même idée partagée, au même moment par tous les disciples dans un ashram. Cette vision idéaliste-là n'est pas juste. Il faut comprendre que dans un ashram, chaque individu est quelque part limité, ou bien s'il n'a pas vraiment des limitations, il est coloré, typifié par son niveau de conscience. L'individu va donc agir, parler, rayonner en résonance direct avec le niveau de conscience qui a été atteint. Dans un ashram, le travail du maître va consister donc non pas uniquement à essayer de planifier le terrain pour que chacun comprenne la chose de la manière qui doit être compris. Le travail du maître va être non seulement de créer ce travail de planification, donc d'évolution sur ses disciples, mais aussi son travail va être d'utiliser les disciples tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que dans un ashram, si quelqu'un, à cause de son niveau, voit la chose d'une manière bleue, et puis un autre voit la chose d'une manière rose, et puis un autre voit la chose d'une manière verte, le maître va essayer de faire évoluer suffisamment les individus pour qu'ils conçoivent tous la chose de manière blanche. Mais comme ils ne peuvent pas pour l'instant et instantanément la concevoir tous de manière blanche, le maître, pour les faire évoluer, va utiliser cette façon de voir la chose pour que cela porte nourriture à quelqu'un qui ne peut pas voir la vérité autrement que de manière bleue ou de manière rose ou de manière verte. Et c'est à ce moment-là que le disciple, en fonctionnant, commence à recevoir des énergies qui petit à petit enlèvent la couleur qu'il porte. Et au fur et à mesure qu'il dit la vérité est rose, la vérité est bleue, la vérité est verte, au fur et à mesure la couleur passe. Et il sent très bien que la véritable couleur de la vérité, c'est tout simplement le blanc. Et c'est à ce moment-là où il comprend alors quel est le jeu de l'instruction et de l'éducation. Parce qu'étonnamment, tout en sachant que la vérité est blanche, il continue à dire qu'elle est rose ou qu'elle est verte ou qu'elle est bleue. Mais cette fois-ci, il prétend que la vérité est rose, verte ou bleue, non pas parce que lui-même est limité à cette couleur et à cette vision de la vérité. Il le prétend tout simplement parce qu'il sait que, considérant les gens qu'il a en face de lui, ces individus-là ne peuvent pas comprendre la vérité autrement qu'en disant « la vérité est bleue ». Donc à ce moment-là, le disciple n'est plus limité dans sa vision, il adapte volontairement la vérité au niveau de compréhension des personnes qu'il a en face de lui. Ce qui ne veut pas dire que systématiquement il va devoir rabaisser la vérité au niveau d'acceptation des individus. Il ne faut pas tout systématiquement rabaisser. Mais disons que si un individu est capable de comprendre, par exemple, 50% de la vérité, le disciple qui veut véritablement être utile à l'individu et lui apporter quelque chose pour changer sa vie, ne va pas lui dire le 100% de la vérité. Cela, de toute manière, va déborder comme une casserole qui est pleine et l'individu ne recevra que le 50% de ce qui est dit. Alors, comment faire ? Eh bien, il faut dire les 50% que l'individu est capable d'apprendre, plus 10% supplémentaires qui représentent la marge suffisante pour accomplir une évolution. Et avec simplement ces 10% supplémentaires qui vont être donnés, vous verrez comme de toute façon cela est largement suffisant parce que l'individu va éprouver de grandes douleurs, de grandes difficultés à s'adapter aux petits 10% supplémentaires qui sont apportés. Donc il n'est pas besoin de donner le 100%. Lorsque l'on veut apporter la lumière, il faut être conscient d'une chose. Il faut savoir ce que l'on sert. Beaucoup d'individus se lancent dans le service ou dans la diffusion en pensant la lumière doit être apportée à tous les hommes. On doit tout dire. Aujourd'hui, l'homme est suffisamment mental, l'homme est suffisamment évolué, on a eu suffisamment de dogmes, de religieux, de gourous, pour que cela cesse, et aujourd'hui, l'on doit tout dire. Ce comportement n'est pas faux, mais il faut savoir que ce comportement est un effet d'un idéalisme conçu et vécu à l'intérieur du disciple, avec trop d'infantilisme. Il faut comprendre ce que l'on sert lorsque l'on sert. Qui je sers lorsque je suis au service? Je sers l'homme qui est en face de moi. Je sers sa vie limitée qui essaye de s'agrandir un petit peu. Donc, si je sers l'homme qui est en face de moi, je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je rayonne, pour que ce que je choisis de donner et de rayonner soit véritablement la nourriture que l'individu pourra intégrer. Si l'homme ne peut pas intégrer tout ce que je peux dire ou rayonner, alors je dois me taire. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce qu'a dit le frère lorsqu'il a dit que l'on ne jette pas de perles au pourceau. En disant cela, il ne voulait pas dire « Ne dites pas la vérité à ceux qui ne la comprennent pas. » Il ne portait pas préjudice vis-à-vis des profanes. Il ne jugeait pas les hommes ignorants comme étant des pourceaux. Ce serait un très grave jugement s'il l'avait conçu de cette manière-là. Cela aurait été très grave de la part de son cœur de compassion. S'il a dit cela sans juger les hommes, qu'est-ce que cela veut dire donc? Eh bien, cela veut dire qu'à chaque type d'individu, il va falloir donner la nourriture plus un petit pourcentage en plus, qui ce pourcentage-là va être véritablement l'objet d'évolution. Il ne faut pas forcément donner la vérité en entier, comme si c'était la vérité que l'homme devait servir. La vérité se moque complètement d'être servie, d'être comprise, d'être louée, d'être vive à l'intérieur du cœur de chaque homme. Elle s'en moque complètement, elle existe pour elle-même. Par contre, ce dont elle ne se moque pas du tout, c'est de l'état de douleur dans lequel vivent les individus qui ignorent trop cette vérité. Alors que fait la vérité? Eh bien, la vérité se dit, si je veux libérer cet homme de ses ténèbres et de ses limitations, je dois lui envoyer un certain type de nourriture. Je ne dois pas lui donner l'entier du pain de vie que je représente. Je vais lui envoyer au début quelques miettes. Et s'il digère bien ces quelques miettes, alors j'enverrai une tranche. Et s'il digère bien la tranche, j'en enverrai une deuxième, etc. jusqu'à ce que je puisse donner le pain de vie tout entier. Il faut être très tacticien lorsque l'on veut enseigner. Il ne faut pas s'ouvrir sur le monde entier en disant « Voilà la vérité, voilà les livres de la loi, voilà les couleurs de la lumière. » Tous les disciples seront déçus tant qu'ils agiront de la sorte. Tout simplement parce qu'ils auront espoir que la lumière soit comprise et ils porteront le flambeau de la lumière avec amour, avec ardeur. Et comme cette lumière ne va pas être comprise et sera même par moments complètement reniée, blasphémée, automatiquement le porteur de lumière va tomber dans le désespoir. Se dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les ténèbres soient aussi épaisses. Ce n'est pas possible que j'ai autant de murs à défoncer. Oh, finalement, ils sont trop bêtes. Tant pis. Je reste dans mon cercle d'amis. Et je ne parle qu'à ceux qui peuvent me comprendre. Au bout de quelques échecs, c'est ce que l'individu conclut. Et quelqu'un qui s'était ouvert amplement et qui avait commencé par vouloir donner la lumière au monde entier, termine son service en véritable ermite, ne parlant qu'à de rares individus qu'il choisit parce qu'il pense qu'il doit choisir les gens auxquels il parle. Or, c'est un comportement complètement faux. Pour éviter donc ce risque de désillusion et de découragement, il faut dès le début dépassionner complètement le service, enlever tout type d'ardeur qui va vers la lumière, tout type de service et de vision du service qui serait donc porté vers l'adoration de la lumière, la diffusion de la lumière, la compréhension de la lumière, l'établissement de la lumière sur la terre. C'est un idéal qui est très beau, mais c'est un idéal qui n'a rien à voir avec l'aspect pratique que le disciple doit connaître s'il veut vraiment être efficace pour l'évolution des hommes. Toute cette ardeur, l'individu peut l'avoir à l'intérieur de lui-même. Il peut aimer l'idéal, il peut penser promouvoir l'idéal, c'est certain. Mais que ce soit un feu qui anime sa vie intérieure. Lorsqu'il passe dans le monde et qu'il passe à l'action dans le monde, cette même ardeur doit exister, mais elle ne doit pas se transposer sur les hommes. Ce qui doit se passer à ce moment-là, lorsque le disciple regarde l'homme et qu'il travaille pour l'homme, ce qui doit se passer dans le disciple, c'est tout simplement un grand calme et une grande connaissance de la nature humaine. Ce qui fait que le disciple ne va pas s'attendre à telle ou telle réaction, ne va pas s'attendre à être compris, à être suivi, à être accepté. Il ne va pas non plus s'attendre à ce que, sur son passage, des groupes se créent et que ces groupes le suivent et diffusent sa parole. Il ne va pas non plus s'attendre à ce que d'autres groupes viennent vers lui pour créer cette grande unification, pour créer ce grand temple planétaire une bonne fois pour toutes. Tout ceci va exister, c'est certain. Et il est bon d'en avoir la vision le plus tôt possible, car cette chose existe, le disciple a raison, mais elle n'existe pas encore sur terre. Elle existe dans le ciel lorsque l'on rencontre des hommes et des femmes suffisamment évolués pour faire partie de ce que l'on appelle l'ashram planétaire. Dans cet ashram planétaire, la vie est telle que le disciple l'imagine et qu'il la souhaite sur terre. C'est vrai que dans cet ashram-là, tout vit de par l'union. Tout vit de par l'inspiration et l'intuition. Il n'est pas besoin de distribuer les tâches. Chaque individu est suffisamment évolué pour être en résonance avec la part de plan et de dessin qui lui correspond. Automatiquement, le dessin adombre l'individu. L'individu le reçoit et il sait en toute responsabilité ce qu'il doit exécuter et il l'exécute. Il ne se demande même pas si cela correspond au travail d'un autre, ou bien si un autre a parfaitement reçu sa part de travail pour que, faisant la sienne, le travail général du temple s'effectue. Il ne se pose aucune question car il sait que tous les frères et sœurs qui sont là dans le temple sont animés, adombrés par la même inspiration, la même intuition. Et ainsi la vie s'articule sans qu'il y ait besoin de dire quoi que ce soit. Elle est perçue et elle est manifestée. Mais ceci est quelque chose qui est vécu dans les plans supérieurs de la vie planétaire. Dans le plan inférieur de la vie planétaire, il n'en est pas du tout de même. Et c'est ce que le disciple incarné doit comprendre une bonne fois pour toutes. Sa vision est juste, son idéal est bon, mais il doit vibrer avec cette vision et cet idéal uniquement lorsqu'il est en relation avec la vie planétaire supérieure. Sitôt qu'il descend dans la vie planétaire inférieure, il doit garder cette vision, il doit garder cet idéal, mais comme étant un point de force et de rayonnement et un point de stabilité en lui-même. C'est-à-dire que tout cet idéal doit représenter en lui le point de force du royaume, duquel il est conscient, duquel il tire sa force, force qui va lui permettre de renverser tous les obstacles qui vont se trouver sur son passage, sur le plan physique. renverser tous les obstacles, mais aussi assumer tous les contraires qui vont se lever, assumer tous les blasphèmes qui vont se lever, tous les reniements, assumer aussi toutes les escroqueries ou tous les vols qui vont avoir lieu vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses idées, ou vis-à-vis de sa vie matérielle ou quoi que ce soit d'autre. Il aura la force d'assumer tout ça parce que la vision qu'il a du royaume sera son point de force et son point de rayonnement. Si le royaume à l'intérieur de lui n'est pas vécu comme ce point de force et de rayonnement, et qu'il essaye, en bon idéaliste, de rayonner son idéal à l'extérieur, c'est là où, en fait, il va perdre toutes ses énergies. Et c'est là où, en fait, il démontre qu'il ne connaît pas la force spirituelle, qu'il ne connaît donc pas non plus le plan d'évolution, le dessein de la hiérarchie. Tous les disciples qui commencent dans le service disent « Mais il faut tout dire aujourd'hui. Je vais tout avouer aux hommes. Je vais leur faire comprendre qu'ils sont lumière. Et ce sera fantastique de vivre sur une terre à ce point consciente de sa divinité. » Et de cette façon-là, on voit un petit soldat partir, la fleur au fusil. Et lorsqu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il voit que l'on tire de vraies balles et que les canons tirent de vrais boulets et que chaque fois il risque sa vie et que même il endure des blessures, il se dit « mais ce n'est pas possible ». Moi je suis venu parler de cette divinité, je suis venu leur dire qu'ils sont divins et voilà que je ne reçois que des rafales de mitraillettes, des crachats, des lancements de pierres, des blasphèmes et me voilà maltraité comme il n'est pas permis. Pour éviter cette désillusion, l'individu doit d'abord représenter un centre de force, un centre de connaissance, un centre de paix. L'idéal doit être vécu de cette façon-là, comme un centre de force, un centre de connaissance, un centre de paix. Lorsque le disciple a créé ce centre en lui, il doit alors porter son regard vers l'extérieur. Et il doit apprendre à connaître ce que sont les hommes, ce qu'est le monde. Et il doit apprendre à connaître et reconnaître les limitations de ces hommes. Et il doit s'attendre à ce que les hommes ayant la liberté d'agir, il doit s'attendre à ce que ces hommes éventuellement le maltraitent. Donc il ne s'agit pas d'aller dans le monde poitrine ouverte, ventre ouvert, en clamant la lumière de Dieu et en étant tout étonné chaque fois que l'on va recevoir un coup de pied au derrière. Il faut au contraire y aller de manière concentrée, avec une tactique, avec la connaissance de ce que sont les hommes, la connaissance de toutes les réactions possibles, et distribuer à chacun ce qu'il lui faut pour accomplir un pas supplémentaire dans son évolution. Et lorsque cela est fait, il faut retourner au silence et partir plus loin, recommencer le même travail, se taire de nouveau et partir plus loin. Ce qui est donc difficile de comprendre pour le disciple qui veut servir, ce n'est pas tant de comprendre Dieu, mais de comprendre les hommes. Parce que tant que le disciple n'aura pas compris ce qu'est l'homme et pourquoi l'homme est de cette manière construit et de cette manière en état de réaction, de limitation, tant qu'il n'aura pas compris le pourquoi, il ne saura pas même qui est Dieu. Et il ne saura pas libérer cet homme pour que son Dieu apparaisse. Ce que l'on doit servir, c'est l'homme. L'homme qui est enfermé. L'homme qui est à l'état de souffrance. souffrance parce qu'ils croient toutes les illusions, tous les mirages, toutes les ombres. C'est cet homme-là qu'il faut servir. Alors, puisqu'il faut libérer cet homme-là, eh bien, il faut avoir la sagesse et l'intelligence d'éventuellement ne rien dire à propos de la vérité et ne dire que la petite chose qui parfois ne pourrait être qu'un élément de psychologie ou qu'un élément de santé, mais qui va être la seule chose capable de créer une différence dans l'esprit de l'individu. Et une fois que l'esprit a compris la chose qui a été donnée, une fois que cette petite différence a été acquise, à ce moment-là, oui, vous pouvez commencer tout le mode d'instruction de façon classique et traditionnelle. Mais avant, c'est complètement inutile. Donc, lorsque l'on est un disciple, qu'est-ce que l'on doit avant tout comprendre et cultiver ? Lorsque l'on est un disciple, il ne faut donc pas être un feu de Bengale qui va tourner dans tous les sens en clamant le nom de Dieu, les vérités de Dieu, les vérités des maîtres. Comme je viens de l'expliquer, cela ne fait que dévitaliser l'individu et cela ne sert en rien la vérité. Pour être un disciple qui va fonctionner avec authenticité ou un groupe qui va fonctionner avec efficacité, il faut avant tout créer en soi un centre de force, un centre de connaissance, un centre de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il va falloir développer en soi toutes les qualités que l'on attend d'un homme efficace, d'un homme suffisamment conscient de ce qui est attendu de lui, en considérant les nécessités d'un plan d'évolution, pour qu'il puisse agir en considération de ses exigences et non pas en considération de l'ardeur qu'il a pour l'idéal. À partir du moment où le disciple crée ce centre de force et de connaissance en lui, il n'a pas besoin de se demander s'il aura l'énergie pour faire les choses, s'il sera cru par les autres, de quel sujet il vaut mieux qu'il parle, ou de quelle manière doit-il aborder tel ou tel sujet, ou bien s'il est suffisamment tôt pour parler de telle et telle chose, s'il n'est pas trop en avant-garde. Lorsque le disciple crée ce genre de point de force, il n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. Automatiquement, il rentre en relation avec les personnes qui se trouvent en face. Et il distribue automatiquement ce qu'il faut aux personnes. Et s'il a en face de lui des personnes suffisamment avancées, il va donner des choses d'avant-garde. S'il n'a pas des personnes suffisamment avancées, eh bien il va parler au niveau de la psychologie pour que l'individu soit capable de vivre une vie meilleure. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir ce que je dois dire, comment je dois le dire. Le problème, c'est de savoir si je suis suffisamment intériorisée pour être une conscience capable de rentrer en relation avec les autres consciences humaines. Et par là même, savoir, sentir, même si je n'en suis pas forcément conscient sur le plan du mental concret, même si je n'entends donc pas une petite voix qui me dit « Eh bien maintenant tu vas leur dire ça, ça, ça et ça et ça. » Même si je ne suis pas conscient du dialogue de cette façon-là, je dois être suffisamment versée vers l'autre pour pouvoir automatiquement avoir envie de dire ce qu'il faut pour l'autre. Il s'agit donc d'une osmose. Et cette osmose n'est pas difficile à créer. Il suffit d'intérioriser la vie, d'intérioriser les énergies. Encore une fois, il ne faut pas qu'avec l'esprit tout frais, qui vient à peine de sortir du mode d'expression profane, il ne faut pas que l'individu veuille servir et proclamer la lumière avec cet esprit-là. et que donc il passe systématiquement par une manifestation extérieure, extériorisation de son ardeur, extériorisation de sa dévotion, extériorisation de son idéal, extériorisation de sa foi, partage de sa foi, par laquelle il espère d'entraîner les autres dans la même foi. Ça, c'est une vision, c'est un mouvement d'extériorisation. Au contraire, il faut que la conscience soit toute intériorisée. Lorsque la conscience est toute intériorisée, c'est à ce moment-là uniquement que l'individu sait ce qu'il doit rayonner à l'extérieur. Il va constamment rayonner sa lumière. Mais lorsqu'il aura affaire à des individus, il va rayonner typiquement ce qu'il faut pour l'individu, soit pour lui offrir une épreuve, soit pour casser son archaïsme, soit pour lui proposer un changement. Même si sa lumière coule hors de lui, dans tous les sens et à tout instant, ce qu'il va dire, ce qu'il va proposer, sera en fonction de chaque individu. Comment donc déclencher ce centre à l'intérieur? Eh bien, comme je l'ai expliqué si souvent et si longuement, il faut que l'individu commence par calmer ses énergies. Il n'y a rien de plus contraire à la spiritualité que l'ardeur de servir, l'ardeur de comprendre, l'ardeur d'apporter Dieu à tous les hommes, l'ardeur d'apporter la lumière à tous les hommes. C'est un vacarme immense qui dilue toutes les énergies d'action, qui éparpille la substance mentale et qui a le malheur de ne jamais se soucier de se rendre efficace vis-à-vis des gens qui sont en face. C'est un peu comme un enfant qui proclame sa vérité sans se soucier de quelle manière il aurait pu la dire pour que la vérité soit admise. Il la proclame comme il la sait, et de cette manière-là, elle n'est pas entendue. Donc il faut absolument adoucir les ardeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir se séparer de l'ardeur? Absolument pas. Mais il faut que cette ardeur soit vécu comme feu intérieur et non plus comme un feu qui brûle à l'intérieur de soi et qui, à cause de la brûlure, fait ressentir la nécessité d'être projeté à l'extérieur. Car l'ardeur primaire, c'est cela. On la porte en soi, elle dérange, elle brûle, elle nous emporte vers des réactions, vers des paroles, et on a l'impression ainsi d'avoir suivi un certain ordre des choses, un certain impératif du service. Mais c'est faux. Cette ardeur doit être toute contenue. Cela donc doit devenir une ardeur intelligente et non plus une ardeur quasi émotionnelle. Une ardeur intelligente. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas gaspiller l'énergie. Le principe de feu que représente l'homme est un principe qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de ne pas gaspiller ses énergies. Donc, il faut éviter tout système d'extériorisation. Il faut au contraire centrer les choses à l'intérieur de soi pour alimenter son feu intérieur. De cette manière, le feu grandit, prend de la puissance, et l'homme va pouvoir alors utiliser cette puissance pour pouvoir être sans cesse dans un acte de donation. Donner la lumière, donner la sagesse, donner des épreuves, donner de l'énergie. Et à ce moment-là, cela ne lui coûte rien, parce qu'il puise dans la puissance et non pas dans le feu lui-même. C'est un peu comme un individu qui commence à créer son feu intérieur, et puis il se dit, ce feu me brûle, ce feu est fantastique, ce feu est fabuleux, je dois le donner à tout le monde. Alors il prend les bûches qu'il a réussi patiemment au fur et à mesure des incarnations à rassembler pour créer le feu. Il prend les bûches de son feu pour aller les poser sur le petit tas de bois des autres. Et que se passe-t-il ? Lorsqu'il a distribué 4 ou 5 bûches, il s'aperçoit qu'en lui, il n'y a plus aucune bûche et que donc le feu a complètement disparu. Sans compter que lorsqu'il regarde les autres petits tas de bois, il s'aperçoit qu'un tas de bois était trop mouillé, la bûche qu'il a donnée n'a pas pu prendre feu, mettre le feu, c'est mort. Et qu'un autre tas de bois, lui, était construit de manière trop sèche, avec des brindilles trop fines, il y a eu une grosse flambée d'un coup, puis plus qu'un tas de cendres et maintenant plus rien. Et puis il s'aperçoit qu'à un autre endroit, il n'y avait pas de bois, mais finalement que de l'herbe sèche, et il s'aperçoit qu'il a déclenché un incendie catastrophique qui met le feu à toute une région. Et il contemple ce désastre, et il ajoute à ce désastre son propre désastre, parce qu'il a distribué toutes ses bûches et il n'y a plus de feu à l'intérieur de lui. Alors il se dit, zut alors, voilà que je dois retourner couper du bois, en espérant qu'il y ait une étincelle et que cela redéclenche le feu. Ce n'est donc pas la façon de faire. La façon de faire est laquelle ? La façon de faire est de mettre de plus en plus de bûches pour qu'un feu immense soit créé. Ce feu immense va être tellement grand que l'on va pouvoir sentir la chaleur du feu à des lieues et des lieues à la ronde, si bien que les autres petits tas de bois vont être attirés et vont venir s'alimenter eux-mêmes à ce feu. Si bien que, le feu devenant tellement grand, il va y avoir des étincelles qui vont s'envoler dans tous les sens, et ces étincelles vont mettre l'incendie aux divers petits tas de bois qui sont autour. Et quand il va falloir véritablement amorcer la flamme chez quelqu'un, alors le disciple n'aura aucun problème à prendre dans le petit tas de bois